Le journal de Raphaël Chalvera.
Bonjour, la Raiffeisen Arena s'annonce chaud bouillante. Le HC Ajoie dispute ce soir le premier derby de la saison face au HC Bienne à Porrentruy. Les Jurassiens tenteront de vaincre le Cygne Indien. Ils n'ont pas encore battu les Seylandais depuis leur retour dans l'élite. Large sourire pour les piscines en plein air de la région. On a été proche des records de fréquentation cette saison. Le temps clément des mois de juin et septembre ont notamment permis au bassin d'être très bien rempli. La transparence est devenue une obligation pour les partis politiques. À un mois des élections fédérales, on connaît les budgets de campagne et l'identité des grands donateurs. Éclairage dans ce journal. Météo, un temps variable est prévu demain, entre quelques pluies possibles et belles éclaircies. Il ne fera pas plus de 17 degrés dans le Jura. Le ciel sera bien ensoleillé dimanche avec de l'air plus doux. Le HC Ajoie espère enfin mettre fin à sa disette sur les derbies. Les hockeyeurs jurassiens reçoivent le HC Bienne ce soir à 19h45 dans le championnat de National League. Ils ont perdu les 8 derbies disputés depuis leur remontée dans l'élite. Pour mettre fin à cette série noire, le HCA pourra compter sur Gillian Koller, auteur d'un début de saison canon. L'ancien biennois a déjà inscrit 5 points en 3 matchs, plus que son total sur l'ensemble de la saison dernière. À 23 ans, l'attaquant originaire de Sonsbo espère enfin exploser dans l'élite, conscient aussi des attentes autour de lui.
Oui, je pense qu'il y a une assez grosse attente. Là, j'ai su répondre par rapport peut-être les quelques premiers matchs amicaux où j'étais un peu transparent. Là, ça allait un peu mieux et je vais essayer de continuer comme ça.
23 ans, deuxième saison à Porrentruy. Est-ce qu'on se dit aussi, ben voilà, c'est un peu l'âge où maintenant il faut montrer, il faut prouver qu'on peut vraiment se faire une place en vue en National League?
Oui, bien sûr. Surtout que maintenant, on joue aussi avec 6 étrangers. Les places pour les joueurs suisses sont de plus en plus minimes. Surtout dans les deux premiers trios, c'est toujours très compliqué. Alors quand la chance est là, il faut la saisir. Et voilà, à cet âge-là, je pense que c'est le moment de prouver si on a notre place ou pas dans la National League.
Votre contrat arrive à son terme aussi à la fin de l'hiver. Est-ce que ça, c'est des éléments qu'on a en tête quand on aborde une deuxième saison à Porrentruy?
Je pense que ce n'est pas quelque chose qui vient directement à la tête, mais on l'a toujours un peu en arrière-pensée parce que c'est quand même notre travail. C'est clair, on se bat pour l'équipe, pour faire un bon championnat, mais aussi à vue personnelle, on se bat aussi pour son job, pour sa place. Et quand on est en fin de contrat, c'est clair que c'est important de montrer une belle saison et voilà, de se faire une bonne vitrine.
Gillian Koller répondait à Mathieu Schaffner. Ajoie Bienne, un derby à vivre en direct dès 19h30 sur RFJ avec Mathieu Schaffner justement et l'ancien joueur ajoulot Anthony Rouillet. Quant au reste de l'actualité sportive, ce sera après ce journal. Les piscines de la région ont débordé cet été avec des températures parfois extrêmes. Les baigneurs se sont rués au portillon des établissements extérieurs qui ont fermé le week-end dernier. On parle même de fréquentation record dans certains cas. Loïc Georgi.
Un mois de septembre sans pareil, c'est le fait marquant de cet été pour la piscine de Delémont. Plus de 8800 nageurs sont venus profiter des installations Vadez lors des premières semaines du mois de septembre, soit près de 3000 de plus qu'en 2016, précédent record. Le mois de juin a également affiché une fréquentation jamais atteinte avec plus de 29500 entrées, des très bons résultats qui placent cet été en deuxième position des meilleures années avec 82 000 entrées. Une très bonne saison donc sans le moindre incident important selon Patrick Maté, responsable du centre sportif de Delémont. Du côté de Moutier, l'été a été plus que réjouissant également, même si les chiffres ne sont pas encore connus précisément. Marco Fernandez, chef des infrastructures de la commune, s'est même dit surpris et parle d'une des 3 meilleures saisons depuis longtemps. Beaucoup de nouvelles têtes sont venues profiter des installations, notamment des personnes frontalières, note Marco Fernandez.
Et les chiffres n'étant pas encore connus, il est difficile pour l'heure de se prononcer du côté de Porrentruy. Le commissaire de la police municipale, Dominique Vallat, assure toutefois que tout s'est bien passé au niveau sécuritaire. Les mesures prises ont permis de constater moins de tensions sur les lieux. MEDOP fête ses 30 ans d'engagement dans la réinsertion professionnelle. La fondation basée à Porrentruy célèbre ce week-end son 30e anniversaire avec des portes ouvertes. Le public pourra découvrir les locaux de l'entité qui offre une expérience professionnelle dans les domaines de la pratique commerciale et administrative ou encore de l'informatique bureautique. Les visites sont prévues aujourd'hui de 13h à 17h et demain de 9h à midi. Champeau se prépare à l'effervescence. Le village au-dessus de Moutier organise son 13e marché d'automne au programme le 7 octobre. 4 à 5 000 visiteurs sont attendus dans les rues qui seront à nouveau garnis de stands dédiés à l'artisanat et aux produits du terroir. Les exposants se sont littéralement rués sur les inscriptions. Le président du marché d'automne de Champeau, Johan Stoller.
Les inscriptions, c'est incroyable. Chaque année, on est surpris nous-mêmes. On ouvre des inscriptions toujours mi-avril. Et puis, dès qu'on envoie le mailing, on fait un petit peu de la publicité. En 48 heures, on a des 70, 80 demandes. C'est vraiment une belle preuve de fidélité de nos exposants, de nos cantines, de nos restaurants. C'est une grande preuve de satisfaction pour l'ensemble du comité d'organisation. On a 140 exposants, on en a refusé déjà une vingtaine qui ne rentraient pas forcément dans le cadre d'un marché, c'était plutôt des forains. On a également actuellement encore une vingtaine d'exposants qui sont sur une liste d'attente. S'il n'y a pas de désistement, j'encourage vraiment tous les intéressés, les exposants qui aimeraient une fois participer au marché, de vous inscrire, d'aller sur le site du marché d'automne à la mi-avril, là où on ouvre les inscriptions pour l'année en question.
Et puis une particularité pour cette année, c'est pas tous les jours qu'on peut accueillir un conseiller fédéral, Albert Rushti, qui va passer donc pendant ce marché. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ?
Je crois que pour une petite manifestation comme la nôtre, ce n'est pas forcément normal, si je me permets, de pouvoir accueillir une telle personnalité, un des 7 conseillers fédéraux que nous avons. Le monde politique mérite un respect, que ce soit à gauche, à droite, et tout le monde est invité et les bienvenus ici à Champeau.
Des propos recueillis par Olivier Zano. La manifestation aura donc lieu le 7 octobre de 9h à 22h avec concerts et animations. Transition énergétique, relations avec l'Union européenne et coûts de la santé, les principales thématiques abordées ce matin avec les candidats verts libéraux au Conseil national. Noémie Rollier et Paul Monra étaient les invités de notre matinale spéciale à un mois pile poil des élections fédérales du 22 octobre. Même si ce n'est pas une des priorités de son programme de campagne, le PVL propose une solution pour lutter contre l'augmentation des coûts de la santé. Il veut un système de santé intercantonal coordonné. Paul Monra et Noémie Rollier.
Actuellement, la marge de manœuvre des cantons elle est limitée et je pense que la Confédération doit reprendre la main. Il faut avoir le courage de prendre des décisions et dire « Ok, là, on fait un petit peu plus de... » Comment dire, on redonne un peu la main à la Confédération qui peut piloter tout ça. Je crois que c'est illusoire de croire qu'au niveau des cantons, on va commencer à pouvoir diminuer les coûts. Donc là, il faut vraiment que ça change. Il faut un vrai pilotage politique. Actuellement, il n'y a pas vraiment de pilotage politique. On fait croire qu'on veut faire quelque chose parce que c'est 86 milliards la santé au total, hein, en plus d'assurance obligatoire et sont le tout. Donc c'est énorme. Puis toutes les personnes qui vont manger au gâteau là autour, elles n'ont aucun intérêt à ce que ça change.
Et si on prend le cas d'un autre canton avec un tel système, cela signifierait que les Jurassiens devraient se tourner vers d'autres hôpitaux pour les prestations en lien avec la médecine de pointe. Qu'est-ce qui nous resterait finalement à nous, Noémie Rollier ?
On a tout intérêt de plutôt centraliser les soins spécifiques dans des grands hôpitaux, ce qui permettrait justement de réduire aussi les coûts, d'avoir moins d'infrastructures qui coûtent parfois très très cher. Donc ce qui permettrait justement après d'avoir des répercussions, que ce soit sur les prix des prestations qu'on paye et également sur les primes maladie qu'on paye chaque mois.
Les candidats jurassiens du PVL, Noémie Rollier et Paul Monra au micro de Loïc Georgie. Retrouvez l'intégralité de cette émission en vidéo sur rfj.ch. Un mois des élections fédérales, on en sait un peu plus sur l'argent investi dans la campagne. Partis et candidats doivent pour la première fois faire preuve de transparence. Ils sont tenus de déclarer les budgets de plus de 50 000 francs et les dons de plus de 15 000 francs. Toutes les informations sont publiées sur le site du Contrôle fédéral des finances. Ce sont les candidats du Parti libéral radical qui ont le plus de moyens, avec des dépenses globales de 12 millions de francs. Suivent les candidats de l'UDC et du Parti socialiste. Le voile est aussi levé sur les principaux donateurs de la campagne. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vieumier.
Le don le plus important qui a été annoncé est celui de Carmita Burkhardt. La Neuchâteloise a versé 1 million de francs au vert. Elle est l'héritière de la famille qui a fondé la multinationale industrielle Sika. Vient ensuite Christophe Blocher, l'ancien conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre. Il a donné 550 000 francs à son parti. Et une certaine Fondation pour la politique bourgeoise a aussi versé 500 000 francs à l'UDC. Cette fondation a pour but de soutenir les activités du parti, mais on ignore d'où vient son argent. La création d'une fondation, d'un club ou d'une association semble permettre de contourner l'obligation de déclarer les grands donateurs. La réaction de Pascal Stirniman, directeur du Contrôle fédéral des finances.
Partout où il y a une loi, il y a des possibilités où on peut essayer d'entourer la loi. Mais je dirais avec les structures qu'on a, avec les donations aussi, avec les fondations qu'on a créées, on a quand même des règles qui sont très très claires. Si on a une personne à l'origine qui a fait une donation pour une campagne d'élection, la personne, elle doit être publiée dans le registre. Alors là, la loi, elle est claire.
D'après le contrôle des finances, une entité créée uniquement pour soutenir une campagne devrait donc annoncer ses donateurs. Et une organisation qui soutient un parti devra faire de même dès l'année prochaine avec l'entrée en vigueur de la déclaration des budgets des partis politiques. La campagne électorale de cet automne n'est que le premier pas. Le financement de la vie politique devrait progressivement devenir plus transparent.
Et pour l'instant, seuls les budgets de l'élection au Conseil national ont été rendus publics. Les chiffres de la campagne du Conseil des États seront dévoilés en début d'année. Des vérifications ponctuelles seront effectuées par le contrôle des finances. Il pourrait être le favori à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Le socialiste balois Beat Jans a confirmé sa candidature ce matin à Berne. À 59 ans, il préside le Conseil d'État de Bâle-Ville depuis 2 ans et demi. Il avait auparavant siégé durant 10 ans au Conseil national. Cela fait 50 ans que la métropole industrielle de Bâle attend de revoir l'un des siens au Conseil fédéral. Le dernier avait été Hans-Peter Tschudi, le père de l'AVS. Beat Jans est issu d'une famille ouvrière. Son accession au Conseil fédéral serait une forme de américain à la sauce suisse.
C'est un peu exagéré parce qu'en Suisse, c'est normal. Mais ma femme, par exemple, elle est américaine. Elle dit « Jacques Chour, c'est incroyable, le système politique que vous avez chez nous, aux États-Unis, c'est terrible, hein? C'est une polarisation. » Et la Suisse, c'est le compromis, c'est les solutions communes. Et c'est exactement ça que m'intéresse.
Vous avez 59 ans, ce n'est plus de prime jeunesse.
Je suis prêt, je suis fit. Ce matin, j'ai fait du jogging. J'étais nager dans le Rhin ce matin. Donc, je me sens bien pour ce poste. Et j'ai des filles, presque 16 et 18 ans. Et j'ai quand même accès à la pensée des jeunes personnes.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Hubin. En plus du balois Beat Jans, 3 autres candidats socialistes briguent le siège d'Alain Berset au Conseil fédéral. Le bernois Mathias Ebischer, le zurichois Daniel Josic et un autre balois Mustapha Adici. Le parquet de Paris requiert un procès pour le Rassemblement national. 27 personnes liées au parti, dont Marine Le Pen et son père, sont concernées. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. Le parquet demande que la principale figure du RN soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité. Les soldats d'Azerbaïdjan encerclent Stepanakert, la capitale de la région séparatiste de Nagorno-Karabakh, surtout peuplée d'Arméniens. La population se terre dans les caves et craint des massacres, selon une porte-parole des autorités locales. La région serait actuellement privée d'électricité, de gaz, de nourriture, de carburant et de connexion internet et téléphonique. Les séparatistes arméniens ont accepté de déposer les armes à la suite de combats qui auraient provoqué la mort de 200 personnes.
RFJ, il est 12h28.
Sport.
Italie, Espagne et Suède, les 3 adversaires que l'équipe de Suisse féminine de football va affronter à l'occasion de la première édition de la Ligue des Nations. Le premier acte est au programme ce soir face aux Transalpines à 19h30 à Saint-Gall. La sélection helvétique figure en première division de cette compétition analogue à la Ligue masculine. Depuis le début de l'année, l'équipe de Suisse féminine est dirigée par Inka Grings. Sous sa direction, elle a atteint les 8e de finale de la Coupe du Monde cet été en Nouvelle-Zélande. La coach allemande semble imposer un nouveau style qui permettent au groupe de progresser. C'est du moins l'avis de la Suissesse Sandrine Moron.
Depuis le mois de janvier, elle a rejoint l'équipe nationale. Elle a apporté beaucoup de structure, la mentalité un peu allemande où il faut que ce soit carré, en tout cas sur le terrain. Mais elle nous laisse aussi pas mal de liberté en dehors du terrain où on est assez grande et adulte en fait, pour faire ce qu'on a à faire pour se préparer au mieux sur le terrain. Mais sur le terrain, c'est sérieux et on sait ce qu'elle veut. Elle nous donne aussi un bon système de jeu, comment elle veut préparer au mieux son match. Donc ça a amené un plus et je crois que pour l'instant, arriver jusqu'en 8e de finale en Coupe du Monde, personne n'a vraiment cru au départ. C'était notre objectif. On voulait faire mieux que la Coupe du Monde 2015 ou voire même parcours. Donc on a aussi réussi à atteindre notre objectif là. Voilà, c'est que du positif et puis je pense qu'elle est prête à rester et pour 2025, c'est une très très bonne sélectionneuse.
Des propos recueillis par notre confrère de OneFM, Blaise Bugil. Julian Nagelsmann est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. La Fédération nationale de football l'annonce aujourd'hui. L'ancien entraîneur du Bayern Munich succède à Hansi Flick, limogé il y a 2 semaines. Il devient à 36 ans le plus jeune entraîneur à occuper ce poste. Julian Nagelsmann dirigera la Mannschaft jusqu'à l'Euro 2024 qui se disputera en Allemagne l'été prochain. Et puis ce coup dur pour le 15 de France, son capitaine et demi de mêlée pourrait être absent de la Coupe du Monde de rugby pendant 1 mois. Antoine Dupont souffre d'une fracture à la mâchoire, une blessure contractée après un choc hier soir lors de la victoire 96-0 des Bleus contre la Namibie. Le joueur reste toutefois dans le groupe tricolore. Fin de ce journal, bel après-midi.